chronique terrienne, une fois par mois sur Radio Saint-Aff par Cécile Blanche.
Je profite du jour de l'an chinois pour introduire dans les chroniques terriennes une respiration. Disons quelque chose de plus léger que les précédentes émissions, avec deux contes pour nous changer les idées bien trop envahies aujourd'hui par ces foutus virus.
Le jour de l'an est le premier jour du calendrier. Ça, tout le monde le sait. Mais comme il y a plusieurs calendriers, eh bien le jour de l'an n'est pas le même pour tout le monde. Même si pour les compagnies aériennes, le 440 ou l'Organisation mondiale du commerce, le premier de l'an est le nôtre, celui du calendrier grégorien. Pour les Chinois, par exemple, qui ont un calendrier lunaire, le premier de l'an tombe variablement selon l'année entre le 20 janvier et la fin février. Le calendrier persan, lui, fait tomber le jour de l'an le 21 mars, c'est-à-dire au solstice du printemps. Et que dire de l'Égypte, ancienne, où le premier de l'an, c'était lors de l'arrivée annuelle des crues du Nil, c'est-à-dire aux alentours du mois de juin. En fait, et en général, il y a deux grandes catégories de calendriers. Les calendriers solaires, où la date du premier de l'an est fixe, même si elle est différente de notre premier de l'an. Et puis, il y a les calendriers lunaires, au mois plus court, puisque liés aux révolutions de la Lune, et dont le jour de l'an n'est pas fixe par rapport à notre calendrier. Je vous fais grâce du calendrier révolutionnaire et républicain qui a fonctionné en France de 1793 à 1806. Et je vais un peu m'attarder sur le Nouvel An tibétain. La fête du Nouvel An là-bas s'appelle Losar. C'est la fête la plus importante au Tibet, et pour les Tibétains en exil. Avant que la nouvelle année commence, une préparation rituelle s'effectue pour permettre que cette nouvelle année soit une année heureuse et sans obstacle pour le pays et ses habitants. Cette préparation rituelle a pour objectif d'éliminer tous les éléments négatifs de l'année écoulée. Repartir du bon pied, en quelque sorte. Elle se déroule la veille du jour de l'an. Dans les monastères, ce sont des danses sacrées toute la journée, puis on brûle une sculpture géante afin de chasser les mauvais esprits. Et dans chaque famille, on nettoie la maison de fond en comble, afin d'éliminer tout ce qui est considéré comme impur. Puis, on partage le goutouk, la soupe du 29e jour. Cette soupe, garnie de boulettes de farine de blé, de viande et de radis, et porteuse de présages, symbolisés par quelques ingrédients inattendus. Fil de laine pour la douceur, petits cailloux blancs pour un esprit positif, ou morceaux de charbon pour les pensées négatives à rejeter. À la fin du repas, on se purifie symboliquement le corps en le frottant avec des boules de tsampa, orge grillée. Chargées des éléments négatifs de chacun, elles seront déposées au dehors et brûlées en compagnie d'une effigie, également en tsampa, représentant le mal. Enfin débarrassé de toutes ces mauvaises ondes, on peut débuter l'année sous de meilleurs auspices. À l'aube du jour de l'an, toute la population est réveillée par des conteurs, appelés drekar, porteurs de bons augures. L'homme porte un masque blanc en feutre avec une barbe blanche et un bâton à la main. Il chante en disant « Je viens de l'Est, du paradis de Dorje Sampa ». Et en même temps, il danse. La tradition veut que la famille lui offre des gâteaux et un bon repas. Peut-on le comparer à notre Père Noël ? Pourquoi pas ? Peut-être est-ce là son origine ? Tout le monde est habillé de ses plus beaux habits. Après les vœux présentés à chacun par la maîtresse de maison, la matinée est consacrée aux prières dans chaque famille, devant l'autel garni d'offrandes multiples. L'après-midi est consacré aux réjouissances. Jeux, danse, chant, c'est le jour où l'on écoute l'épopée du héros, Gésard de Ling. Le lendemain, on va les uns chez les autres pour échanger les vœux. Enfin, le troisième jour, des prières et des fumigations sont adressées au dieu protecteur du foyer, au dieu du sol, au dieu du pays. Les festivités du Nouvel An se poursuivent en fête pendant tout ce premier mois de l'année. Elles culminent le jour de la grande prière, commémorant la victoire de Bouddha sur les hérétiques. Après ces considérations sur le Nouvel An autour du monde, il ne nous reste plus qu'à raconter une histoire du Tibet. Et curieusement, elle ressemble fort à un conte scandinave qui se raconte à Noël. Voici le lion de pierre, extrait d'un recueil de contes populaires du Tibet réuni par Pierre Carré. C'est l'histoire de deux frères. Leur père est mort et ils vivent avec leur mère dans une grande maison au creux d'une vallée fertile. Autant l'aîné est débrouillard, autant le cadet est simplé. Mais si l'aîné ne pense qu'à sa personne, le cadet, lui, déborde de générosité. L'aîné a repris les affaires de son père et le cadet, incapable de rien faire d'un tant soit peu compliqué, n'est d'aucune utilité. Et pour tout dire, passe son temps à bâiller aux corneilles. Si bien qu'un jour son frère, las de le nourrir, le met à la porte. Frère cadet va embrasser sa mère avant de partir, mais celle-ci décide de l'accompagner. Elle n'aurait jamais imaginé qu'un frère, son fils aîné, puisse à ce point manquer de cœur. Pèlerin malgré eux, mère et fils s'éloignent et disparaissent dans la montagne. Après une journée de marche, en redescendant vers un bourg voisin, il passe devant une cabane à l'orée d'un bois. Elle ne fume pas, il s'approche. Le lieu est désert. Alors il s'installe et s'endorme, mère et fils blottis l'un contre l'autre. Dès l'aurore, frère cadet s'enfonce dans la forêt à la recherche de bois mort, dans l'idée d'aller le revendre sur la place du marché du bourg voisin. Plié sous un énorme fagot, il n'a aucun mal à le vendre et revient à la cabane avec plus d'argent qu'il ne l'espérait. Mère et fils reprennent espoir. Le lendemain, frère cadet passe toute la journée dans la forêt pour ramasser du petit bois. Et alors que le soleil commence à décliner, il découvre dans une clairière un lion, sculpté dans la pierre, une statue colossale qui lui inspire un saint effroi. Ce doit être le protecteur des lieux. C'est sûrement grâce à lui que j'ai si bien travaillé. Demain, je lui apporterai des offrandes pour le remercier. Le lendemain matin, il porte le bois au marché et le vend encore mieux que la première fois. Il achète 2 bougies de bonne cire et s'en retourne vers la forêt. Il vient auprès du lion de pierre, allume les bougies, se prosterne de tout son long en murmurant des actions de grâce et des vœux.
« Qu'est-ce que tu fais là ?»
C'est le lion qui a parlé. Le garçon, au cœur simple, n'en est pas effrayé. Au contraire, il raconte par le menu toute son histoire.
« Ta fortune est faite !»
déclare le lion, avec un accent de grande sympathie.
« Demain, reviens me voir et apporte un seau de belle taille. »
Après avoir vendu sa charge de bois, frère cadet achète un grand seau. Le lendemain matin, il court vers la forêt retrouver le lion de pierre avec son seau.
« Je t'attendais !»
Frère cadet se prosterne devant son protecteur en le remerciant encore et encore pour tout le bois qu'il a pu vendre grâce à sa protection.
« Tiens fermement ton seau sous ma gueule. Je vais y cracher quelque chose d'un peu lourd, sur quoi personne jamais ne crache. Mais attention, préviens-moi bien avant qu'il ne déborde. Sinon, le charme serait immédiatement rompu. »
Frère cadet obéit, et le lion vomit gracieusement une grande quantité de grosses pépites d'or, jusqu'à ce que le jeune homme crie « Plein !» bien avant que l'or ne déborde. Tout heureux, frère cadet revient à la cabane et offre le seau plein d'or à sa mère. Dès le lendemain,
Mère et fils s'établissent dans une grande ferme à l'entrée de la ville. Ils achètent les plus belles têtes de bétail de la vallée. La nouvelle de cette fortune ne tarde pas à arriver aux oreilles de frère aîné. D'abord, il ne veut pas y croire. Mais la rumeur se fait insistante et il se décide à aller voir son petit frère accompagné de sa femme. Et c'est bien vrai, le simplet est plus riche que lui. « Comment as-tu fait, petit frère? Par quel miracle es-tu plus riche que moi ?» Frère cadet, alors, explique sans se faire prier. Il explique comment le lion de pierre, le protecteur de la forêt, l'avait béni. Frère aîné, tout aussitôt, se fait fabriquer un seau énorme. Il achète une douzaine de bougies en cire fine et court vers la forêt. Là, il se plante devant le lion de pierre, allume les bougies et attend. Rien ne se passe. Mon frère se serait-il moqué de moi ? Tout en maugréant, il finit par se prosterner trois fois devant le lion. Il entend alors la grosse voix de celui-ci. « Qui es-tu ? »
« Je suis le frère du petit ramasseur de bois, vous savez. »«
Et que me veux-tu ? » ?»«
Et, mais de l'or, bien sûr. »«
Pas de problème. Mets ton seau sous ma gueule et surtout, fais bien attention que l'or n'en déborde pas. »«
Préviens-moi, attends. » Seulement voilà. Frère aîné perd la parole. Alors que les précieuses pépites continuent à déborder du seau, le démon de la voracité lui a croqué sa voix. Une pépite, puis deux, puis dix, tombent à terre. Le flot d'or s'interrompt d'un coup.
« Je crois que j'ai une grosse pépite coincée dans le gosier !» dit le lion. « Aide-moi à la dégager !»
Frère aîné lâche son seau, de toute façon beaucoup trop lourd pour lui, et plonge son poing dans la gorge du lion. Aussitôt, celui-ci referme sa mâchoire. Voici notre homme, cupide, prisonnier. Il se débat en tous sens, hurle, transpire, donne des coups de pied au lion. Mais rien n'y fait. Le lion est de pierre. Et quand frère aîné jette un regard sur le seau, il ne voit plus que des cailloux. Envolez les pépites d'or. Au crépuscule, la femme de frère aîné vient voir ce qu'il en est de la récolte d'or. Quand elle voit son mari prisonnier du lion, elle hurle à son tour, tempête, gesticule, mais sans aucun effet. Le temps passe. Frère aîné reste prisonnier du lion de pierre. À moitié fou et tout endolori, il se lamente. « Je ne comprends pas pourquoi il me fait ça. » Sa femme lui apporte chaque jour de quoi le nourrir. Et au bout d'un moment, toute leur fortune y passe. Il ne reste plus à la pauvre femme que ses larmes à offrir aux prisonniers du lion de pierre. Il ne nous reste plus qu'à mourir. Tout ça parce que tu t'es coincé le bras dans la gueule d'un lion de pierre. Ha 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 ha! En entendant les paroles de la femme, le lion ne se tient plus et pour éclater de rire, il ouvre la bouche et libère le bras de frère aîné. Boitillant, éploré, traînant sa femme, frère aîné se sauve au plus vite. Il fuit, et sa terreur le pousse chez son petit frère, dont il reconnaît enfin la bonté. Frère cadet l'accueille à bras ouverts. « Vous pouvez rester ici autant que vous voudrez. J'ai bien plus qu'il ne faut pour notre mère et pour moi. Quand tu iras mieux, frère aîné, tu pourras tout recommencer. »
Dizi dans le matin.
quittons le Tibet pour Taïwan et pour écouter l'histoire du Nouvel An, glanée sur la toile. Il y a bien longtemps, quand des dragons puissants vivaient sur la terre et dans les mers, personne à Taïwan ne célébrait le Nouvel An. Il y avait même un village où ce jour était le plus mauvais jour de l'année, parce qu'un habitant avait tué un dragon des mers. Tout le monde sait que c'est une chose terriblement malheureuse à faire, car le fantôme du dragon revient hanter les lieux. Après la mort du dragon des mers, à l'aube du Nouvel An, son fantôme est apparu dans ce village. Il secouait son horrible tête et hurlait « J'ai faim ! Donnez-moi un fils premier-né à manger !»« Non, non, nous ne ferons pas ça !» répondent les villageois en pleurs. « Nous ne vous donnerons pas d'enfants à manger !»« Alors je vous tuerai tous !» Et le fantôme du dragon soufflait son haleine puante et chaude en direction du village. La fumée s'insinuait partout et les villageois toussaient. Certains perdaient même connaissance. Le plus sage du village, se rendant compte que le fantôme du dragon pourrait facilement les faire tous mourir, décida à contre-cœur de donner un enfant nouveau-né afin de sauver le reste du village. Il espérait qu'avec cette offrande, jamais plus le fantôme du dragon ne reviendrait. Mais année après année, le fantôme du dragon revenait. Et année après année, une famille devait sacrifier son fils premier-né pour satisfaire la voracité de l'animal. Comme le voulait la tradition, 4 jours avant le nouvel an lunaire, le prêtre taoïste quittait le temple et s'en allait à travers le village jusqu'à la maison de l'infortuné qui devait sacrifier son premier enfant. Cette année-là, alors qu'il marche en direction de la crique, là où se trouve la maison de la veuve Tang, tous les villageois se demandent avec hésitation. Mais où va-t-il cette année ? Chez la veuve Tang, dit une femme. Oh non, pas chez elle, c'est son seul enfant. C'était un beau garçon qui allait avoir 5 ans. Les voisins de la veuve Tang se rassemblent tout autour de la maison. Ils s'attendent à entendre des cris de douleur au moment où elle apprendrait la terrible nouvelle. Mais rien. Aucun son ne parvient de sa petite maison. Lorsque le prêtre repart, il se précipite pour voir ce qui se passe. Il trouve la jeune veuve Tang assise dans sa cuisine. « Le prêtre ne vous a pas dit les nouvelles ?»« Oui, il m'a dit, » répond la veuve calmement. « Mais pourquoi ne pleurez-vous pas ?»« Parce que je n'ai pas de temps pour pleurer. Je pense à une façon de rouler le fantôme du dragon. Il n'aura pas mon fils. » Pendant 3 jours et 3 nuits, elle arpente sa maison, essayant d'échafauder un plan. De temps en temps, elle fait une pause et regarde son fils, qui joue dans la cour. Elle prie aussi devant l'autel de ses ancêtres et tous les dieux dont elle connaît les noms. Lorsque son fils s'endort, elle s'assoit à côté de lui et lui caresse doucement le visage, qui ressemble tellement à celui de son père. Elle va même consulter le devin, les prêtres et chacun dans le village. Mais personne ne sait que faire. La situation semble désespérée. Lasse de tant attendre, de tant marcher, de tant prier, le soir du 3e jour, elle s'endort, épuisée, sur le sol devant l'autel des ancêtres de la famille. Son fils qui l'a vu se dit qu'il ne doit absolument pas l'éveiller, car elle rêve peut-être et il ne veut pas lui couper son rêve. Bien lui en prie, car effectivement, sa mère rêvait. Parce qu'elle n'avait pas dormi durant 3 jours, une masse de rêves lui venait dans un ordre décousu. Elle voyait des dragons et des fantômes, la peur et la crainte, des enfants innocents et de la douleur, du sang et de grands bruits, et puis de la joie. Le tout tourbillonnant dans sa tête. Quelques heures avant l'aube, elle se réveille et doucement secoue sa tête encore douloureuse d'avoir tant rêvé. Et alors, le miracle se produit. Les images décousues s'assemblent et elle sait ce qu'il faut faire.
Les dragons de mon rêve avaient peur de deux choses. Peur de la vue de sang et peur des bruits violents. Quand quelqu'un a peur, il s'enfuit, en général, en courant. Mon plan sera simple. Je mettrai le sang sur ma porte et je ferai tant de bruit que le fantôme du dragon sera effrayé et partira en courant. Du sang. Je suis si pauvre que je n'ai pas même un poulet à tuer pour prendre son sang. Elle prend son couteau le plus pointu et se pique le doigt, laissant goutte à goutte couler son sang sur un tissu jusqu'à ce que toutes les gouttes jointes ensemble recouvrent entièrement l'étoffe. Elle prend le tissu et l'accroche à l'extérieur sur sa porte. Maintenant, faire des bruits violents. Les pétards seraient le mieux, mais je n'en ai pas. Je suis si pauvre que je ne pourrais pas en acheter. Et en plus, il n'y a aucun magasin ouvert aujourd'hui. Elle réfléchit et pense au bambou. Elle sait que lorsque des morceaux de bambou brûlent, ils se fendent dans un bruit épouvantable. Elle prend donc son couteau pointu et s'en va dans le froid afin de couper une douzaine de grands morceaux de bambou. Elle les place en pyramide devant sa porte, juste au-dessous du tissu taché de sang. Ainsi déposés, ils brûleraient rapidement et éclateraient tous à la fois. Quand devrais-je allumer le feu? Juste à temps, ni trop tôt, ni trop tard, afin qu'il éclate dans le visage du fantôme du dragon. Elle allume une petite torche et s'accroupit dans l'embrasure de la porte, attendant l'aube et la venue du fantôme de dragon. Elle attend et attend. Il lui semble, tellement elle attend, que le soleil est gelé au-dessous de l'horizon et ne monterait pas aujourd'hui. Tout est calme, si calme que le seul bruit qu'elle entend sont les coups de son cœur. Finalement, la lune et les étoiles commencent à disparaître du ciel. Faiblement, elle entend le hurlement du fantôme de dragon. Est-il temps d'allumer le feu ? Non, le fantôme de dragon est encore trop loin. Chacun dans le village est tapi dans son lit, sous les édredons et les couvertures. Personne ne dort, sachant que la veuve Tang attend le fantôme de dragon. Seul son fils dort, du sommeil d'un ange. Tout à coup, on entend un hurlement. Le fantôme du dragon doit être en bas, au centre du village. Il est temps pour elle d'allumer. La veuve Tang prend sa lanterne, l'incline vers la pyramide de bambou et l'enflamme. Elle entend la terre qui tremble sous le poids du fantôme du dragon, qui marche vers sa petite maison. Il descend à présent sa ruelle, il s'approche. Arrivé devant chez elle, le fantôme du dragon s'arrête devant la maison. Et voyant le linge taché de sang, se met à hurler. Au même moment, le feu de bambou éclate. Le fantôme du dragon, terrifié par la vue du sang humain et les bambous qui éclatent, s'enfuit en courant à travers le village. Quand les gens du village accourent, ils trouvent la veuve Tang assise et de grosses larmes coulent sur son visage. Les cloches se sont mises à sonner et de tous les côtés, les gongs célèbrent ce grand jour, tandis que les pétards font éclater la joie. Et depuis ce jour, chaque année, dans chacun des villages, on met le sang des papiers rouges autour des portes et on allume des pétards bruyants à l'aube. Le fantôme du dragon n'est jamais revenu.
Elle sera rediffusée demain à 8h15 et samedi à 16h. Et bien sûr, vous pouvez la retrouver sur le site de Radio Sainte-Afrique dans les émissions mensuelles et culturelles. Vous avez entendu successivement un chant des moines tibétains et un chant des aborigènes de Taïwan. Considérant la fluctuation des dates des premiers de l'an, il n'est pas trop tard pour vous souhaiter une bonne année. Plus que jamais, nous avons besoin de multiplier nos vœux. Et doit-on se livrer à ce nettoyage qui occupe les Tibétains pendant plusieurs jours afin de célébrer ce premier de l'an? D'accord. Est-ce que ça suffira à éviter l'accumulation des nuages noirs au-dessus de nos têtes? Il va falloir trouver autre chose.